Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée dans le Nord Kivu.
À Kinshasa, toujours en RDC, retour triomphal de l'opposant Jean-Pierre Bemba, candidat à la présidentielle de décembre prochain.
Au Zimbabwe, 3 manifestants ont été tués hier dans les protestations contre les résultats des législatives de lundi remportées par le parti au pouvoir.
En Côte d'Ivoire, le maire du Plateau a été révoqué hier par le Conseil des ministres pour détournement.
Ici aux États-Unis, appel du président Donald Trump pour une fin à l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie d'Ebola, la 10e, a donc été déclarée hier à 30 kilomètres de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Selon le ministère congolais de la Santé, l'épidémie a déjà fait 20 morts. Une équipe de médecins est attendue sur place, aujourd'hui à Beni, en provenance de Kinshasa, pour préparer la riposte. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Selon un communiqué du ministère de la Santé, 26 cas de fièvre avec des signes hémorragiques, dont 20 décès, ont été rapportés dans l'aire de santé de Mangina, située dans la zone de santé de Mabalako, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Des 6 échantillons analysés le mardi 31 juillet dernier à Kinshasa par l'Institut national de recherche biomédicale, 4 se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola. Le communiqué précise tout de même que la souche du virus n'est pas encore déterminée et le lien entre cette nouvelle épidémie et celle déclarée finie dans la province de l'Équateur n'est pas encore établi. Le gouvernement de la RDC annonce par ailleurs qu'une équipe de 12 experts du ministère de la Santé basée à Kinshasa rejoint Beni ce jeudi 2 août afin de mettre en place les différentes composantes de la riposte pour contenir rapidement et efficacement cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, une foule immense et hostile au pouvoir a salué hier le retour à Kinshasa de l'ex-chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, qui veut s'inviter dès ce jeudi dans la course à la succession du président Joseph Kabila. De l'aéroport au centre-ville, des dizaines de milliers de personnes, peut-être davantage, ont accueilli M. Bemba, 55 ans, à son retour à Kinshasa après 11 ans d'absence, dont 10 derrière les barreaux du centre de détention de la Cour pénale internationale. Nous reviendrons sur le retour de Bemba en RDC avec Thierry Kambundi dans la seconde partie de cette édition.
Au moins 3 personnes ont été tuées à Harare dans la répression de manifestations de partisans de l'opposition par les forces de l'ordre. Les manifestants accusent la commission électorale de fraude après l'annonce de la victoire aux législatives du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Nicolas Pineau fait le point.
La police zimbabwéenne a confirmé, je cite, la mort regrettable de 3 personnes pendant les émeutes et la mêlée qui s'est produite dans le centre de Harare lors d'une déclaration à la télévision nationale. Dans les faits, l'armée a tiré à balles réelles sur les manifestants qui entendaient marcher sur la commission électorale, accusée de fraude après avoir annoncé la victoire et la majorité absolue pour la ZANU-PF aux législatives. Les partisans du MDC, le principal parti d'opposition, craignent que le scénario ne se répète pour la présidentielle et que la victoire n'échappe à leur candidat, Nelson Chamisa. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé en novembre à Robert Mugabe, a pour sa part déclaré qu'il tenait l'opposition pour responsable de toute perte humaine lors des manifestations post-électorales. Les États-Unis se sont dit dans un tweet profondément inquiets et ont appelé l'armée à faire preuve de retenue quand elle disperse les manifestants. Les Nations Unies ont appelé de leur côté les responsables politiques et les citoyens à rejeter toute forme de violence. Les résultats officiels de la présidentielle pourraient être annoncés ce jeudi.
En Côte d'Ivoire, le maire du Plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, a été révoqué hier par le Conseil des ministres, qui l'accuse de détournement. Ce limogeage intervient en pleine bataille politique entre les deux principales formations de la coalition au pouvoir, Bagassi Koura.
Le gouvernement accuse Noël Akossi Bendio de graves violations dans le maniement des fonds communaux, de faux en écriture publique et de détournement de fonds portant sur plusieurs millions d'euros, C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Sidi Touré à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a précisé que des missions de vérification et de contrôle ont été effectuées dans la commune d'Abidjan fin juillet et que l'affaire avait été transmise à la justice. Cette révocation survient alors que la lutte fait rage entre le RDR du président Alassane Ouattara et le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié qui dirige ensemble le pays depuis 2011. Les relations sont tendues depuis plusieurs mois en raison du lancement par le président Alassane Ouattara d'un grand parti unifié dans lequel les deux formations sont censées se fondre, ce que refuse le PDCI.
En Guinée équatoriale, le Parti citoyen pour l'innovation a protesté contre la détention illégale de ses militants près de 30 jours après l'annonce par le président Teodoro Obiang-Nguema d'une amnistie en faveur des prisonniers politiques. Depuis le décret de l'amnistie, seul Roulian Abaga, professeur dans un collège technique de Bata, a été libéré mi-juillet après 7 mois passés en prison pour avoir critiqué sur Internet le président Obiang-Nguema et ses collaborateurs.
Aux Comores, l'opposition et une organisation de la société civile ont qualifié hier de mascarade les résultats du référendum constitutionnel qui a approuvé lundi à 92,7% des voix le renforcement des pouvoirs du président Azali Assoumani. L'opposition avait appelé au boycott du scrutin.
À Madagascar, le dirigeant Ange Rajoel a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle de novembre pour succéder à Héry Rajoelmanpanine, qui n'a pas encore annoncé s'il se représentait. Monsieur Rajoel, âgé de 44 ans et ancien maire d'Antananarive, a déjà dirigé la Grande Île de 2009 à 2014. Cette année, il a dirigé avec son ancien ennemi, Marc Ravalomanane, une fronde populaire qui a secoué d'avril à juin la capitale Antananarive pour dénoncer des lois électorales controversées.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tensions diplomatiques entre Ankara et Washington. Les États-Unis ont pris des sanctions contre deux ministres turcs qu'ils accusent d'avoir joué un rôle majeur dans l'arrestation et la détention d'un pasteur américain toujours retenu en Turquie. Des détails avec Raissa Girondin.
En route pour Singapour, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que le président américain Donald Trump estime que ces sanctions étaient la mesure appropriée à prendre contre la Turquie. Hier, Washington a pris des sanctions contre les ministres turcs de l'Intérieur et de la Justice, Süleyman Soylu et Abdulhamid Gül, accusés de maintenir en Turquie un pasteur américain. Andrew Brunson, actuellement jugé pour terrorisme et espionnage en Turquie, doit être libéré de sa résidence surveillée, a déclaré à la presse la porte-parole de la diplomatie américaine. Le pasteur qui rejette ces accusations risque jusqu'à 35 ans de prison. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a parlé hier au téléphone avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, et va le rencontrer cette semaine à Singapour pour demander la libération du pasteur Brunson. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré hier que la Turquie ne céderait pas aux menaces des États-Unis, accusant Washington de mentalité évangéliste et sioniste.
Amnesty International a pour sa part exhorté aujourd'hui la Turquie à mettre un terme aux graves violations des droits de l'homme à Afrin, ancien bastion d'une milice kurde dans le nord de la Syrie. L'ONG accuse Ankara de fermer les yeux sur les exactions qui sont pour la plupart le fait de groupes armés syriens équipés et armés par la Turquie. Les forces turques, soutenues par de tels groupes, ont pris la région d'Afrin en mars après une offensive militaire de 2 mois qui a entraîné l'exode de dizaines de milliers de personnes.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, soutient que le président Donald Trump ne tente pas d'entraver l'enquête fédérale sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 qu'il a remportée. Quelques heures auparavant, M. Trump avait lancé via un tweet son appel le plus énergique à ce jour sur cette enquête du procureur spécial Robert Mueller en disant que son ministre de la Justice, Jeff Sessions, devrait y mettre fin. Tout ce que le président a fait, c'est se défendre, donner son opinion, et non pas un ordre, a dit hier Mme Sanders en réponse aux questions de la presse.
Les dépouilles de plusieurs dizaines de militaires américains tombés pendant la guerre de Corée, restituées la semaine dernière par Pyongyang, sont finalement rentrées mercredi aux États-Unis, 65 ans après la fin du conflit. Le leader nord-coréen Kim Jong-un en avait fait la promesse lors de son sommet avec le président Donald Trump en juin dernier à Singapour. Une cérémonie a été organisée hier sur la base de Pearl Harbor Hickam à Hawaï pour accueillir les dépouilles en présence de familles et du vice-président américain Mike Pence. Le processus d'identification devrait prendre au moins plusieurs mois, voire des années, ont indiqué des experts.
L'administration Trump a annoncé mercredi qu'elle a envisagé de taxer encore davantage les marchandises chinoises pour encourager Pékin à mettre fin à ses pratiques commerciales déloyales, alors que les discussions entre les deux premières puissances mondiales sont au point mort. La Maison-Blanche accuse Pékin de pratiques déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Elle exige que le géant asiatique abandonne ses pratiques, réduise le déficit commercial américain de 200 milliards de dollars et ouvre davantage son marché aux biens américains.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le gouvernement angolais veut appliquer une écotaxe sur ses importations et la production de plusieurs produits. Une loi devrait viser la production et l'importation de plastique, pneus et batteries pour une taxe comprise entre 0,25 et 0,9% de la valeur du produit. Avec cette mesure, les autorités angolaises espèrent notamment mobiliser des revenus pour lancer un programme de réorganisation des déchets solides et encourager la mise en place progressive d'une économie éco-responsable dans le pays. En Afrique du Sud, le chômage grimpe à plus de 27% au deuxième trimestre 2018. Il était de 5% entre 2004 et 2007. Seules les personnes qui cherchent activement un emploi sont considérées comme des chômeurs. L'économie sud-africaine tourne au ralenti depuis quelques années. La chute des cours des matières premières, la propagation de la corruption et la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie sont à l'origine de cette situation. Les États-Unis injectent en Égypte 45 millions de dollars pour financer les réformes économiques pour remettre l'économie du pays sur les rails. Il s'agit de l'agriculture, des sciences et de la technologie, de la santé, de l'enseignement et de la gouvernance. L'Égypte veut multiplier les investissements dans plusieurs secteurs prioritaires pour atteindre l'objectif de 8% de croissance pour l'exercice fiscal 2021-2022.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'association sportive des conducteurs de CARA a un nouvel entraîneur.
Il s'agit du Burkinabé Bourema Kabore qui a été présenté hier à CARA, à 420 km de Lomé, la capitale du Togo. L'ancien coach de l'étoile filante de Ouagadougou a remplacé sur le banc Kwaku Kumi. Il sera aidé dans sa tâche par l'ancien international togolais Kassim Gouyazou, ex-coach de Kotoko de Lavier. L'ASK, qui a fait sa première expérience en division d'élite lors du dernier exercice, a été classé 8e et donc maintenu pour la saison suivante.
William Djebor retourne au Wydad de Casablanca.
Et oui, l'agent du joueur libérien a trouvé un accord avec les dirigeants du WAC pour son retour au sein de l'effectif. L'attaquant de 26 ans signe un contrat de 2 ans. Une bonne nouvelle pour les supporters qui ont toujours le souvenir des 19 buts inscrits par Williams Djebor lors de la saison du dernier titre 2016-2017.
En Europe, Lewandowski est transférable, selon le président du Bayern.
Karl-Heinz Rummenigge a laissé entendre que son avant-centre Robert Lewandowski est intransférable à quelque prix que ce soit. De nouvelles rumeurs faisant en effet état d'un intérêt de Chelsea pour le buteur polonais du Bayern Munich. Lewandowski, qui aura 30 ans le 21 août, a été sacré meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec 29 réalisations.
L'UEFA a alourdi à 18 mois la suspension de Nasri pour dopage.
La suspension du Français, actuellement sans club, court maintenant jusqu'au 1er janvier 2019. Samir Nasri, 31 ans, qui a quitté son dernier club, Antalyaspor, en janvier, avait été suspendu pour 6 mois fin février 2018 pour avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines, une méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage. Nasri a toutefois été autorisé à reprendre l'entraînement avec n'importe quel club à partir du 1er novembre 2018.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Jean-Pierre Bemba Gombe est de retour à Kinshasa 11 ans après. Le président du mouvement de libération du Congo est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, a été accueilli hier par des milliers de militants de son parti à l'aéroport international de Nili, puis au siège de son parti dans la commune de Kasavubu. Mais l'incertitude a plané jusqu'au bout sur le lieu choisi pour la première nuit quinoise de l'ancien chef rebelle. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il était 9h20, heure de Kinshasa, lorsque l'avion qui ramenait Jean-Pierre Bemba au pays s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili. Accueilli au pied de l'avion par sa famille et les cadres de son parti, le président du mouvement de libération du Congo a mis près d'une heure à discuter avec les autorités sur les modalités de son escorte jusqu'à sa résidence avant de sortir de l'aéroport où l'attendaient de nombreux militants et militantes de son parti. Et à sa sortie, ils ont tous explosé de joie. Certains, très émotifs, ont même fondu en larmes.
Je tiens à remercier mon Dieu parce que ça fait 10 ans que depuis que j'ai vu mon président. Et il est mon papa, il est tout pour moi et surtout qu'il est tout pour ce pays. Je suis dans la joie. Comprenez qu'il y a de larmes aux yeux. Et je tiens aussi à féliciter tout le peuple congolais qui sont venus nombreux de part et d'autre pour l'accueil chaleureux de notre cher président Jean-Pierre Bemba.
Mais ce premier moment de communion devant l'aéroport international de Ndjili n'a duré que quelques minutes. Alors que ses militants en lien souhaitaient que Bemba marche avec eux jusqu'au siège du parti, l'ancien vice-président de la RDC a été escorté par la police. Cette dernière a même dû user des gaz lacrymogènes pour disperser des militants très en colère suite à cette décision. Arriva ensuite l'étape du boulevard Triomphal, où militants et sympathisants encore plus nombreux attendaient leur leader au siège provincial du mouvement de libération du Congo dans la commune de Kasavubu. Très ému, Jean-Pierre Bemba, aux côtés de son épouse, a communié pendant quelques minutes avec eux de la fenêtre de son bureau et cela a suffi à leur bonheur.
Je viens de la province du Congo central. Je n'ai qu'un sentiment de joie. Vous voyez, il y a du monde, et innombrables, des millions de personnes qui sont arrivées à l'accueillir. Je suis très content de son arrivée. Nous sommes d'avis que sa candidature passera, il sera élu président de la République démocratique du Congo.
Bemba revient dans son pays natal. Il est accueilli. Je ne sais pas si c'est quel engouement. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Vraiment, nous qui sommes du parti, on ne croyait pas parce qu'il n'y avait pas une mobilisation vraiment assumée. Vraiment, Bemba, il est du Congo.
Le président du mouvement de libération du Congo a ensuite quitté le lieu pour sa résidence familiale. Selon la secrétaire générale du MLC, Madame Eve Bazaïba, contredit aussitôt par le général Silvano Kasongo, numéro 1 de la police ville de Kinshasa, pour qui Bemba devait plutôt passer sa première nuit quinoise dans un luxueux hôtel de Kinshasa pour raison de sécurité.
C'est le commissaire général qui est le chef de la police qui m'a instruit que le sénateur même ne devrait pas habiter la résidence de Pombo pour éviter qu'il y ait des problèmes à proximité de la résidence du chef de l'État. C'est un site présidentiel. C'est pour qu'il soit exempté des mesures de sécurité. Parce que chaque fois là, il y a des barricades. Il faudrait contrôler les gens qui entrent, qui sortent. Ça ne sera pas bien pour nous. Nous avons l'ordre de l'amener au même ligne. Ils ont pris une suite présidentielle là-bas pour lui.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Mali, 16 candidats à la présidentielle du 29 juillet dernier récusent la juridiction compétente chargée de publier les résultats définitifs de cette élection. Ils se plaignent de tentatives de corruption à la Cour constitutionnelle et lors de leur conférence de presse, les 16 candidats ont formulé plusieurs griefs liés, selon eux, à la mauvaise organisation du scrutin. Le point avec Kassim Traoré.
Dans la grande salle de conférence de la maison de la presse, il y avait du monde. Des militants de certains candidats mélangés aux hommes des médias. Des candidats venus dénoncer la mauvaise organisation du scrutin du 29 juillet dernier. Modibo Kadjodié, candidat de APM Maliko.
On ne veut pas être mis devant les faits accomplis de certaines situations que nous avons constatées au cours du processus que nous dénonçons. Celui qui a porté la parole également a parlé de la position de la Cour constitutionnelle par rapport au procureur. Et vous avez vu également sur le terrain ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de corruption. Et il y a des endroits où il n'y avait pas de liste, il y a beaucoup d'irrégularités. Et on rejette également la neutralité de la Cour constitutionnelle.
Cette conférence de presse était suivie de loin par la majorité présidentielle. Mahamadou Camara, porte-parole du candidat Ibeka.
Ils ont fait des accusations très graves d'accuser l'une des institutions de la République, la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre ultime des élections, de fait de corruption. On ne peut pas aller dans ce genre de choses. On nous accuse aussi de fraude à grande échelle, etc. Mais qu'ils attendent au moins d'avoir les résultats de l'élection. Ce que je retiens, c'est que ces gens-là cherchent à discréditer un scrutin dont ils savent que les résultats ne leur sont pas favorables. Ils ont voté, attendons sereinement les résultats officiels de ce vote, et à ce moment-là, s'ils le souhaitent, pourront faire les recours qu'ils estiment nécessaires devant les juridictions compétentes.
Pour le candidat Mohamed Ali Bati, la Cour constitutionnelle est devenue juge et partie.
Une Cour constitutionnelle se doit de garder, de préserver sa neutralité selon. Elle doit en aucun moment laisser planer le doute sur cette impartialité et cette neutralité. Alors une cour qui empêche les plaideurs de recourir aux moyens que la loi leur donne, on doit la récuser, oui. Donc, c'est pas des griefs fondés sur des sentiments, mais sur la réalité juridique de la position de la cour. Et cette réalité, elle est en porte-à-faux avec la neutralité et l'impartialité. C'est pourquoi nous la récusons.
La Cour constitutionnelle réagit aux accusations de tentatives de corruption de 9 de ses membres. Une information faisant état d'une rencontre le dimanche 29 juillet dernier au sein de la Cour constitutionnelle pour partager 900 millions de francs CFA qui provient du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Mamadou Magasouba, secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Mali.
La Cour dénonce le caractère ridicule de cette affabulation médiatique visant à discréditer le scrutin relatif à l'élection du président de la République. La Cour attire l'attention de tous que la diffusion de telles accusations et constitue ainsi une infraction prévue et punie par les lois électorales et pénales. À cet effet, elle se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux par une saisine régulière des juridictions compétentes pour préserver son intégrité.
Les 16 candidats contestent des résultats qui ne sont pas disponibles, car selon nos informations, c'est aujourd'hui que les premiers résultats provisoires seront disponibles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, c'est un Washington Forum spécial Mali que VOA Afrique vous propose ce jeudi à partir du studio de notre station partenaire Africable Télévision à Bamako. Sur place, les invités pour faire le point sur l'élection présidentielle. Alors que les Maliens attendent toujours les résultats ce mercredi, il s'agit d'un scrutin qualifié de crucial. Pensez-vous que les Maliens accepteront l'issue, quelle qu'elle soit? D'après vous, quels sont les grands chantiers du prochain président, notamment sur les plans de la sécurité, de l'emploi et de la relance économique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h01.
Au Rwanda, l'entreprise Babil Healthcare s'est investie dans le système médical avec une application smartphone qui a désormais plus de 2 millions d'utilisateurs. Selon la compagnie, cette solution a pour but d'alléger la charge des médecins et réduire le temps d'attente dans les cliniques et de faciliter l'accès aux soins pour les habitants des zones rurales. Lily Hartling nous en dit plus sur cette initiative.
Des cliniques isolées, des longues heures d'attente, des médecins surchargés. Babil propose une solution. Une application smartphone lancée en 2016 qui peut diagnostiquer les maladies, générer des ordonnances et sauvegarder l'historique médical des patients. Pour Patrick Singa, directeur médical de Babel Health, l'appli sert surtout à une population rurale.
Entre 80 et 90% de nos clients actuels viennent des zones rurales, pas de la ville. Je pense que c'est parce que dans la ville, les gens ont accès aux services médicaux. Ce produit est plus important pour ceux qui n'en ont pas accès, c'est-à-dire les habitants des zones rurales.
En ville aussi, l'application a ses avantages. Dans la banlieue de Kigali, Nadine Munezero utilise son smartphone pour récupérer ses médicaments.
Une consultation mobile a beaucoup d'avantages. Vous ne payez pas tous les frais parce que vous utilisez votre portable et vous ne gaspillez pas des heures à faire la queue comme les autres. Vous venez chercher vos médicaments et vous vaquez à vos occupations. C'est vraiment un grand avantage et une méthode intelligente.
Le Royal College of General Practitioners, l'organisme officiel des médecins généralistes au Royaume-Uni, prévient que si l'intelligence artificielle a de la valeur, elle ne pourra pas fournir le même niveau de soins qu'un médecin humain. Patrick Singa affirme qu'il ne compte pas remplacer les médecins, mais collaborer avec eux.
Pour nous, l'intelligence artificielle est un outil que l'on donne aux médecins pour le rendre plus puissant. C'est comme ça qu'on le voit. On n'est pas là pour remplacer les médecins, mais pour augmenter leurs capacités et améliorer le travail qu'ils font déjà.
Les patients qui n'ont pas de smartphone peuvent également contacter le centre d'appel situé à Kigali, où les infirmiers effectuent plus de 800 consultations par jour, grâce aux questions rédigées sur l'appli. Avec ce système, Babil ambitionne d'améliorer le service sanitaire au Rwanda, tandis que son entreprise sœur anglaise, Babylon Health, a déjà des projets en cours en Chine, aux États-Unis et au Moyen-Orient.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le cinquième sommet des YALI, Young African Leaders Initiative, s'achève ce jeudi à Washington. Ce programme, lancé en 2010 par le président de l'époque Barack Obama, a pour but de détecter les jeunes talents du continent et de les aider à se perfectionner chacun dans son domaine. Ekiabadou a rencontré l'une des participantes, Inès Kwasi, qui a créé Terre à Terre Bénin pour alerter sur les problèmes écologiques au Bénin et dans le reste du monde.
Terre à Terre Bénin était un besoin dans ma communauté parce que je viens d'un pays où les motos sont responsables de 89% des 83 tonnes de monoxyde de carbone émis par jour dans la principale ville, la capitale économique, Cotonou. Je viens d'un pays où les femmes n'ont pas un accès équitable aux terres, les populations n'ont pas toujours de l'eau potable. Je viens d'un pays où, malheureusement, beaucoup de paysans pensent que le changement climatique est juste un mystère, que c'est parfois pour des raisons spirituelles. Et ce qui a été ma plus grande motivation pour créer Terre à Terre Bénin il y a un an maintenant, ça a été un drame. Au cours du premier trimestre de 2017, j'ai perdu deux de mes voisines, deux braves dames, belles, intelligentes, qui avaient un emploi stable, qui avaient des rêves et surtout des enfants de la famille. Elles sont décédées du cancer du sein et je me suis sentie vraiment comme désarmée. Et puis je me suis dit, non, tu dois te reprendre et tu dois surtout faire quelque chose. Et ce quelque chose pour moi a été Terre à Terre Bénin. Parce que j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement, il fallait faire quelque chose. Terre à Terre Bénin, la première start-up en communication environnementale, est donc née pour mieux informer ma communauté. Ma communauté ne sait pas qu'il n'est pas bon, par exemple, de consommer les soupes de poissons frais. Parce que chez nous, moi je viens par exemple de la région de Grand Popo, où nous adorons, ce sont des pêcheurs qui sont par là-bas. Ce n'est pas bon parce que les études du professeur Pazou ont démontré que le fleuve Ouémé, qui est le principal fleuve au Bénin et qui prend sa source au nord du Bénin, est pollué par les pesticides utilisés dans la culture du coton. Et ce fleuve-là dessert tout le pays. Alors, quand les pêcheurs ils font leur pêche, ils ramènent le poisson, elle a fait des tests et elle s'est rendue compte que tous les poissons, les crustacés que nous pêchons au Bénin contiennent des résidus de pesticides. Les recommandations de cette étude sont notamment Il vaut mieux frire le poisson. Là, on réduit la présence de ces pesticides de 60% plutôt que de consommer des soupes de poisson frais parce que là, c'est 100%. Si vous ne pouvez pas frire, il faut fumer. Mais là, vous réduisez juste de 40%. L'idéal, c'est de frire avant de manger. Au Bénin, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mon rôle, c'est de les amener à connaître ce genre d'informations parce que la science n'est pas toujours accessible aux populations. Mais ayant de l'expérience dans les médias et sachant aussi ce que c'est que l'environnement par rapport à la science, je suis en mesure de ramener de façon terre à terre toutes ces informations afin que les populations puissent faire leur propre choix.
Inès Kouassi de Terre à Terre, Bénin, interrogée ici à Washington. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia, d'Anne Albertson et de Jimmy Cook. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.